Radio Kapi.
La SEMCO et l'ECC disposées à accompagner la RDC pour gagner le pari des bonnes élections en 2023. Pour ce faire, elles ont publié l'intégralité de leur rapport sur les négociations qui ont échoué à la désignation du successeur de Nanga. Entre-temps, le député national Didier Kamundu plaide pour la désignation d'une femme à la tête de la CENI. Didier Kamundu est notre invité ce soir. Naufrage d'un convoi motorisé à Bumba, province de la Mongala. C'était dans la nuit de mardi à hier mercredi. Bilan provisoire, environ 35 corps repêchés et plus de 100 disparus. La surcharge serait l'une des causes de ce drame. Et puis, l'OMS recommande une large utilisation du vaccin contre le paludisme en Afrique subsaharienne et dans les zones à risque. Ce vaccin pourrait sauver des milliers de vies et aidera à protéger les enfants d'Afrique de la malaria, assure l'OMS. Le directeur du programme national de lutte contre le paludisme s'est dit satisfait. Avant de déballer ces titres, sachez que les Léopards de la RDC ont eu raison des Barrières du Madagascar 2-0 en match de la troisième journée groupe J des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. En attendant la quatrième journée prévue dimanche 10 octobre à Antananarivo, la RDC est deuxième avec 5 points après le Bénin. Vous aurez plus de détails à ce sujet dans le journal des sports qui intervient juste après cette édition du journal en français. Madame, Messieurs, bonsoir. La SENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, et l'ECC, Église du Christ au Congo, s'est disposée à accompagner la nation congolaise pour gagner le pari des bonnes élections en 2023. Au cours de leur conférence de presse animée aujourd'hui au centre interdiocésain de Kinshasa, elles ont annoncé qu'elles utiliseront tous les moyens légaux, civiques, démocratiques et pastoraux à leur disposition pour atteindre cet objectif électoral. Elles ont à cet effet publié l'intégralité de leur rapport sur les négociations ayant échoué à la désignation du successeur de Corneille Nanga à la tête de la CENI, le compte-rendu de Jeff Ngoy.
Menaces, pressions, intimidations, tentatives de corruption sont des irrégularités ayant entaché la candidature de Denis Kadima, selon le duo SENCO-SCC. Ces éléments suffisent, d'après ce tandem, à démontrer que le candidat des six confessions religieuses est porté par une famille politique, mais le tandem reste engagé, d'après l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO.
L'engagement de la SENCO et de l'ECC dans le processus électoral en cours n'a qu'un seul objectif, contribuer à la consolidation de la démocratie par des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées.
Parmi les pistes de solutions préconisées, le président me dit avoir donné des garanties de bonne foi de ne pas présenter un quelconque candidat et de laisser au groupe de six le choix de trouver un autre candidat. Il s'est dit disposé pour de bonnes élections.
La SENCO et l'ECC restent disposés à accompagner la nation congolaise pour gagner le pari des bonnes élections en 2023. Elles utiliseront tous les moyens légaux pour atteindre cet objectif.
Il recommande ainsi au peuple congolais d'exercer sa souveraineté en barrant légalement la route à toute tentative de prendre en otage le processus électoral par qui que ce soit.
Par ailleurs, l'implication de l'Église catholique dans le processus de désignation des membres de la CENI vise uniquement à sauvegarder la démocratie pour le bien-être du peuple congolais. Déclaration hier du nonce apostolique, Monseigneur Ettore Balestrero, le représentant du pape s'exprimait ainsi à l'issue de sa rencontre avec le président de l'Assemblée nationale sur invitation du président Christophe Mboso. C'était notamment sur le processus électoral en cours en RDC. Pour l'ambassadeur de Vatican dans le pays, le dialogue et cette consultation sont la preuve qu'il y a la possibilité de continuer dans ce processus pour avoir un consensus qui soit la victoire de la démocratie, notamment. Monseigneur Ettore Balestrero est au micro de Michel Kifindangoy.
Je suis venu car il m'a appelé. On parlait de plusieurs sujets parmi lesquels on a parlé aussi de ce processus électoral. Et je lui ai dit que le seul objectif pour lequel l'Église catholique participe au processus électoral, c'est de donner sa contribution à la démocratie en RD Congo, à travers des élections qui soient inclusives, crédibles et apaisées en 2023. Et que le bien-être du peuple congolais en dépende, et qu'il y a la possibilité de continuer dans ces processus pour avoir un consensus qui soit la victoire de la démocratie, la victoire de l'indépendance, et c'est aussi la raison d'être des confessions religieuses dans la plateforme qui existe précisément pour avoir des positions communes sur des sujets qui sont importants pour le bien-être du pays.
Restons au Palais du Peuple. L'Assemblée nationale a convoqué ce jeudi une plénière. La réplique du ministre des PTNTIC sur le dossier RAM, bien que vivement attendue, n'est retenue parmi les trois points inscrits à l'ordre du jour. S'adressant à Radio Capi, l'auteur de la question orale avec débat adressé au ministre Augustin Kibasa estime que ce troisième report est une preuve que le ministre n'est pas prêt à venir répondre aux préoccupations des députés nationaux. Pour Claude Missaré, au cours de la séance plénière du 29 septembre dernier, le ministre Kibasa sollicitait 48 heures. Les différents reports non justifiés sont en violation de la procédure parlementaire conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, a dit Claude Missaré au micro de Michel Kifindangoy.
On a reporté la séance du vendredi, mais le mercredi, on nous envoie un message pour nous dire que non, la séance est reportée à une date ultérieure. Nous sommes déçus parce que c'est toute la population qui attendait la suppression de la taxe RAM. Que l'Assemblée nationale cesse de perdre le temps pour rien. Le ministre Kibasa Malibasir, ce dossier RAM, il ne sera jamais prêt, il n'aura jamais d'argument pour convaincre la représentation nationale. Et donc, le ministre peut se prononcer, au lieu de perdre le temps, qu'il se prononce. Nous attendons que la suppression de la taxe RAM, dès que la taxe RAM est suspendue, mais le débat sera clos. Ce qui va rester, c'est la mise en place d'une commission qui va enquêter sur l'argent déjà prélevé dans nos téléphones, les comptes dans lesquels cet argent était logé, mais aussi ce qu'on a fait, ce que le ministre Kibasa Maliba a fait avec l'argent qu'il a perçu dans les téléphones des paisibles les citoyens depuis 6 mois.
Je vous le disais en titre, situation dramatique dans le territoire de Bumba, province de la Mongala. C'est à la suite du naufrage d'un convoi motorisé dans la nuit de mardi à hier mercredi. Le convoi de 9 pirogues motorisées transportait à bord plus de 300 passagers et des marchandises. Jusque ce jeudi matin, le premier bilan provisoire fait état d'environ 35 corps repêchés, plus de 100 personnes encore disparues. Parmi les causes, la surcharge pendant la navigation nocturne qui est prohibée pour ces embarcations. Le point avec Paul Richard Malengela.
Des témoins joués ce matin à Bumba affirment que des recherches se poursuivent encore avec des moyens de bord, notamment par des services de sécurité dont des éléments de la force navale assistés des pirogues riverains, a précisé l'entrée du territoire de Bumba. Michel Manzia ajoute que le gouverneur intérimaire de la Mongala est également attendu ce jeudi dans la ville pour apporter son appui. Jusque-là, le bilan provisoire est d'une quarantaine de corps repêchés, plus de 100 personnes portées disparues. Environ 300 personnes étaient à bord de l'embarcation naufragée. Certains corps repêchés déjà en décomposition ont été enterrés sur les lieux mêmes. La plupart des victimes sont des commerçants et des jeunes vacanciers qui retournaient à Bumba. Il y avait aussi un important lot de marchandises, dont des sacs de maïs, d'autres vivres, des planches et des briques cuites, ce qui explique la surcharge qui est la principale cause de l'accident. Notons que le naufrage a eu lieu plutôt à Ngengele, à 24 km sur le fleuve Congo en amont de Bumba, dans la nuit de mardi entre 23h et minuit. Mais le convoi de 9 pirogues motorisées provenait de la localité de Moenge, dans la province de la Tchopo, à plus de 150 km de Bumba. Bondaka pour Chamalengue, la radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, 7 personnes sont mortes et plusieurs maisons saccagées. Bilan provisoire d'une double attaque des présumés assaillants de la Codeco à Rimba et Aou, deux villages situés à plus de 100 km au nord de Bunia, dans la chefferie de Pandourou, territoire de Mahagi. L'organisation Les Ambassadeurs de Bonne Volonté, qui fait le monitoring sur la situation sécuritaire dans cette région, condamne ce qu'elle qualifie de barbarie qui a ciblé des enfants parmi les victimes. Le récit de Martial Kizabiamungu.
Les habitants du village de Rimba, à plus de 10 km de Nyoka, ont été surpris vers 20h locales par des coups de feu qui provenaient de toutes les directions. Des sources locales affirment que ce sont des hommes armés identifiés aux assaillants de la Codeco et en provenance de Dera qui ont attaqué les centres de recherche de l'entreprise publique Inera Nyoka. Ici, selon l'organisation Les Ambassadeurs de Bonne Volonté, ces malfrats se sont introduits dans des maisons d'habitation où ils ont tué par balle 5 personnes et blessé 2 enfants. Son coordonnateur, Sylvain Aguenroth, indique que ces rebelles ont apporté avec eux 17 motos. Une autre source de la société civile dans la région ajoute qu'un autre groupe d'assaillants a attaqué dans la même nuit les centres commerciaux d'Aou, dans la même chefferie. Mokili Munguruti, un des notables de Mahagui, indique que ces bandits ont tué des personnes dans ce village et blessé plusieurs autres. Il ajoute que ce bilan pourrait s'alourdir car les recherches des personnes portées disparues continuent. Les FRDC ne se sont pas encore prononcés. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Et à Matadi, au Congo central, c'est un changeur de monnaie qui a été tué hier vers 19h à son domicile par des hommes armés non identifiés. Le maire de Matadi, qui fustige cette énième attaque des cambistes dans sa juridiction, condamne les faits. Pati Nzuzi estime qu'il n'y a pas d'insécurité à Matadi, mais les changeurs de monnaie sont eux-mêmes victimes de leur indiscrétion dans leurs opérations. Le maire annonce ainsi l'interdiction aux changeurs de monnaie de travailler au-delà de 17h. Nana Plus Riche Mambou nous en dit plus.
C'est aux environs des 19h d'hier mercredi que les bandits armés ont fait irruption au domicile du changeur des monnaies situé au quartier Ville Basse dans la ville de Matadi. À en croire les témoins, avant de lui ravir son sac, ces bandits lui ont tiré une balle aux côtes et lui a égorgé à l'aide d'une baïonnette. La victime, âgée d'une cinquantaine révolue, a succombé sur les champs avant d'être conduite à la morgue. La société civile s'insurge contre la faiblesse dont font montre les autorités compétentes face aux criminels. Elle indique que c'est la 11e attaque contre un changeur de monnaie depuis que la criminalité est observée dans la ville de Matadi. Pour le maire de la ville de Matadi, il n'y a pas d'insécurité dans sa juridiction depuis qu'il a initié la patrouille mixte police FRDC. Patintouzi Wamakengedi attribue les attaques contre les cambistes à leur propre indiscrétion. Ils étalent l'argent en public, ils font des opérations financières et vendent leurs propriétés à ciel ouvert et parfois dans des heures tardives, renchérit l'autorité urbaine. Un arrêté est en gestation pour interdire aux changeurs de monnaie et toute autre activité qui gravite autour des finances de fonctionner au-delà des 17 heures et de loger l'argent en banque tous les jours après les services, a-t-il conclu. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, l'Organisation mondiale de la santé OMS recommande une large utilisation du vaccin antipaludique RTS en Afrique subsaharienne et dans les zones à risque qui pourraient sauver des dizaines de milliers de vies. Selon cette agence onusienne, ce vaccin change la donne dans la riposte au paludisme et aidera à protéger les enfants d'Afrique de la malaria. Réaction en RDC, le directeur du programme national de lutte contre le paludisme PNLP s'en réjouit et estime que le vaccin antipaludéen va beaucoup jouer sur la mortalité infantile. Docteur Eric Samboué, directeur du PNLP, explique au micro de Jocelyne Mukendi.
Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va jouer sur la mortalité. La mortalité des enfants de moins de 5 ans, parce que ce vaccin, donc pour rappel aussi, il n'est pas destiné à nous tous. On va l'introduire dans le programme élargi de vaccination, le PEV, pour les enfants moins jeunes, pour les protéger contre les paludismes graves. Vous savez que nous avons fini l'année passée avec à peu près 20 000 décès liés au paludisme. C'est énorme, ces décès doivent diminuer. Et ce vaccin va contribuer à cela, madame, si on accepte.
C'est destiné aux enfants de quel âge?
Les enfants, donc jusqu'à 18 mois.
Santé toujours, l'épidémie de choléra suit une courbe exponentielle dans le territoire de Mwenga au sud Kivu. En effet, depuis que l'épidémie est décrétée et déclarée dans cette localité en septembre dernier, 199 cas sont enregistrés, 13 décès signalés. Sur terrain, la riposte s'organise pour contenir la propagation du choléra favorisée par le manque d'eau potable à Kitutu. C'est ce qu'affirme David Kitoka, médecin-chef de zone de santé de Kitutu. Il est au micro de Cynthia Bachizi.
Beaucoup de décès se font dans la communauté. Comme la zone n'a pas de moyens de transport, l'hôpital général même n'a pas d'ambulance pour acheminer ces malades depuis leur ménage jusqu'aux structures de soins. Ça pose vraiment problème. Sinon, nous implorons toute personne de bonne volonté pour venir en aide, malgré les interventions de certains partenaires, mais les défis restent toujours énormes dans tous les domaines. À Kitutu, il n'y a pas d'eau, pas de sources aménagées, pas de captage d'eau. Tout ça, ça fait problème. problème parce que la communauté n'utilise que l'eau de la rivière Elila et d'autres puits à ciel ouvert. Il y a des sites d'exploration qui ont été installés par le partenaire AEDES et UNICEF. Certains intrants qui viennent d'MSF Hollande, mais aussi l'accompagnement de l'OMS. Mais jusque là, les gaps restent toujours énormes et à revoir. Parce qu'au finish, notre zone, c'est sa première expérience encore dans cette épidémie depuis trop longtemps. Alors il y a certaines planifications qu'on n'a pas vraiment accès comme ça s'est fait ailleurs.
Actualité Afrique Monde.
Conseil de sécurité sur l'Éthiopie, mercredi 6 octobre, le secrétaire général des Nations Unies s'est montré particulièrement agacé. L'atmosphère était tendue dans l'enceinte du Conseil de sécurité. Antonio Guterres s'est adressé au représentant de l'Éthiopie à l'ONU en lui demandant des documents prouvant les mauvais comportements et les postures d'ingérence de 7 fonctionnaires des Nations Unies dont Addis Abeba a exigé l'expulsion la semaine dernière. Vendredi dernier déjà, le secrétaire général de l'ONU avait demandé ses documents au premier ministre éthiopien avec qui il s'était entretenu. Pourtant, il n'a toujours rien reçu à ce jour, a-t-il affirmé devant le Conseil.
L'invité.
Ce soir, nous recevons le député national Didier Kamundu. Dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État sur l'impasse dans la désignation des membres de la CENI, cet élu du peuple plaide pour que la présidence de la commission électorale soit attribuée à une femme. Le député Didier Kamundu s'entretient à ce sujet avec Michel Kifindangoy.
Didier Kamundu, bonjour.
Bonjour, monsieur Michel. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Vous venez d'adresser une lettre ouverte au président de la République concernant l'impasse dans la désignation de membres de la CENI. Qu'est-ce qui a motivé votre démarche?
Comme dit dans ma lettre, il y a impasse dans la désignation des animateurs de la CENI. La loi confie la responsabilité de désigner ces animateurs aux confessions religieuses. Je vous l'accorde. Cependant, ces 9 confessions religieuses, qui se sont d'ailleurs autoproclamées meilleures à la matière, n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et les politiques s'y sont mêlés, maléfiquement et diaboliquement, en tirant la couverture chacun vers son camp. Ils ont manipulé et divisé les confessions religieuses. Il y a Imalunda, c'était la première impasse. Il y a aujourd'hui Kadima, c'est la deuxième. Faudra-t-il attendre une troisième? Les confessions religieuses n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les choix de l'animateur principal de cette institution. Ça fait 2 ans que les discussions piétinent. Nous sommes bloqués et on s'achemine vers une crise grave à l'horizon. Voilà pourquoi je me suis adressé au président de la République. Je demande donc au chef de l'État de prendre ses responsabilités en main et d'user de son autorité en ordonnant la reprise du processus de désignation des animateurs de la CENI.
Pourquoi avoir adressé votre lettre au président de la République alors que ceux qui sont concernés et surtout par cette impasse sont les chefs des confessions religieuses?
Oui, la solution c'est les chefs de l'État. De par notre constitution, il en a la capacité, il en a l'autorité, il en est compétent. Donc, il peut ordonner la reprise du processus. Il peut donner des orientations pour que la situation soit dégelée, soit décantée. Mais en tout cela, il y a quelque chose qui s'impose. La mise en place de critères objectifs, inclusifs, qui garantissent un processus équitable, transparent, démocratique et apaisé, comme je venais de le dire.
Et que préconisez-vous concrètement pour une suite favorable d'une CENI indépendante et crédible?
Je pense que si le processus n'est pas redémarré, je crains qu'un mauvais processus divise la nation et retarde inutilement l'organisation des élections. Je crains qu'on aboutisse à des manifestations de riz et aux violations graves des droits de l'homme qui en découleront inévitablement. Je crains que cela crée un climat défavorable aux investissements dans notre pays. Donc, il est important qu'on puisse trouver des solutions rapidement. Je crains aussi que la crise électorale qui en découlera empiète sur les efforts de pacification de l'Est du pays. Si nous devons y ajouter une crise électorale, ça va affecter les efforts du chef de l'État. Ça va affecter les efforts de nous tous, les députés, qui ont soutenu l'état de siège et qui continuent à les soutenir aujourd'hui, parmi lesquels moi-même.
Vous soutenez une candidature féminine à la présidence de la CENI. Qu'est-ce qui motive votre position? Pensez-vous réellement que une femme à la tête de la CENI serait une solution pour la tenue des élections crédibles et transparentes?
Pourquoi une candidature féminine? Oui, une femme ne sera pas certainement meilleure que les précédents présidents de la CENI. Mais je propose qu'on trouve un consensus sur une candidature féminine à la tête de la CENI parce que c'est une voie de sortie honorable pour tous. Il faut, d'après tout, qu'on sorte de ces bourbiers. De deux, la loi fondamentale nous impose d'associer les femmes à la gestion du pays à hauteur minimum de 30%. On est loin du compte, puisqu'après Mabunda, aucune institution aujourd'hui n'est dirigée par une femme. Une autre raison, puisque je pense qu'une femme à la tête de la CENI, ce n'est qu'équité. Les femmes sont nombreuses dans notre pays. Elles représentent plus de 55%. Pourquoi ce sont les hommes qui doivent diriger à 100%? Il n'y a pas une raison.
Didier Kamundu, je vous remercie.
Le député national Didier Kamundu s'entretenait avec Michel Kifindangoy. C'est la fin de ce journal supervisé par Alain Irung Mushinj avec le concours rédactionnel d'Élisée Chikotachi Vueta, la mise en onde de Sylvain Matundu. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site www.radiocapi.net.